chaque week-end sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
10h03 sur RKS, bienvenue dans l'esprit grenoblois. À 11h, nous mettrons les petits plats dans les grands dans la cuisine de Francis, mais là, tout de suite, place aux sciences dans la société.
Ils animent des MOOC, se mettent en scène, inventent des expositions, publient des essais, voire des romans. Ce sont des acteurs de la connaissance qui veulent toucher le public, faire comprendre, dialoguer et alerter.
Le miroir des sciences, une émission de François Legrand et Sébastien Berger, réalisée par Jérôme, privé de voix ce matin, mais qui nous réalise de bon cœur tout de même. Vous avez le droit à votre propre opinion, mais pas à vos propres faits. Parole de Paul Romer, prix Nobel d'économie 2018.
Une devise que nous ferons nôtre dans cette nouvelle émission, le miroir des sciences sur RKS. Nous vous proposons d'explorer le lien entre, d'une part, les opinions que chacun ou chacune peut adopter, faire circuler, discuter, contredire, sans qu'il n'ait nécessairement de lien avec la réalité, et d'autre part, les faits avérés, prouvés, mesurés, qui sont les constituants d'une connaissance solide du monde qui nous entoure. Ces faits, c'est bien souvent le monde scientifique qui les produit, grâce à des méthodes depuis longtemps reconnues et partagées.
Le miroir des sciences, c'est chaque semaine une rencontre avec des personnes qui nous rendent la science plus facile et plus proche. Ils nous parlent de leur passion et partagent leur savoir, bien sûr, mais ils nous parlent aussi d'eux et de leur parcours. Ils et elles sont chercheurs, aussi parfois médiateurs, mais surtout pas bonimenteurs.
Nous nous intéressons avec vous aux meilleures façons d'apprendre, de comprendre, sans se faire emberlificoter dans des croyances ou de fausses nouvelles.
Il suffit d'un coup d'œil depuis la Bastille pour réaliser que les scientifiques sont un peu joueurs. Tout à la pointe de la presqu'île scientifique, avant la rencontre du Drac et de l'Isère, ils ont installé d'énormes joujoux. Je dis joujoux à dessein parce que leurs machines s'abritent dans des bâtiments aux formes assez ludiques, finalement. Il y a un gros cylindre métallique, c'est l'Institut Laue-Langevin et son réacteur nucléaire de recherche. Et encore un peu plus au nord, dites-vous Sébastien, j'avais écrit à l'est mais vous m'avez corrigé, un drôle de bâtiment en forme d'anneau géant, c'est l'ESRF, European Synchrotron Radiation Facility, en français Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron. Oh là là, il y a déjà un mot-clé un peu compliqué là. Une machine dans laquelle les électrons frôlent la vitesse de la lumière.
Et cette machine, François, vient de redémarrer après un an et demi d'arrêt pour travaux. Pour en parler, nous recevons deux scientifiques de l'ESRF, Mohamed Mézoir et Yannick Lacaze. Messieurs, bonjour.
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 Que faites-vous d'habitude le samedi matin à cette heure-ci?
Je vais le marcher.
Moi, je prends le petit-déj plutôt à cette heure-ci.
Bah, en tout cas, merci d'être avec nous sur RKS un peu tôt sur le week-end. Au cours de l'émission, on passera aussi un coup de fil à Maud Perrault, qui est l'une des organisatrices de Pint of Science sur Grenoble. Mais because Covid, Pint of Science ne sera pas dans les bars cette année. Il aura lieu en ligne et nous expliquera tout ça. Charge à chacun donc de prendre sa petite bière devant son écran à la maison. Et puis, n'oubliez pas que tout au long de l'émission, n'oubliez pas, ou alors je vous informe de ça, puisque c'est la première quand même, donc j'ai l'air de faire déjà des rappels comme si j'étais installé. Vous pouvez réagir ou nous défier en utilisant, ou défier nos invités plutôt, parce que nous, on n'aura pas de réponse, en utilisant la page Facebook de RKS. Voilà.
Alors donc, le synchrotron, nouvelle formule. Une machine à rêve devenue réalité. La porte ouverte à des révolutions scientifiques, dit entre autres éloges votre dossier de presse. Est-ce qu'il n'y a pas là un peu de survente? On fait de la physique quand même, Mohamed.
Non, pas du tout. Non, c'est vrai que la nouvelle machine qui vient juste d'entrer en fonctionnement a des performances vraiment exceptionnelles. C'est effectivement un outil unique et évidemment, si, quelle que soit la qualité de la machine, c'est pas ça qui va remplacer les idées, c'est sûr. Mais avec un outil exceptionnel, on a quand même plus de chances de découvrir des choses qu'avec un outil qui ne l'est pas.
Alors, revenons un peu en arrière pour nos auditeurs. Décrivez-nous un peu ce que c'est que cet appareil géant qu'on qualifie parfois de microscope, de scanner, d'accélérateur de particules. voire de Lamparis 11X ou d'usine à photons.
C'est un peu tout ça. Alors, évidemment, quand on veut simplifier, et souvent les gens confondent le synchrotron, d'ailleurs, avec l'accélérateur du CERN. C'est souvent, on m'interpelle souvent là-dessus. En fait, il y a des points...
C'est vrai qu'en termes d'apparence, on est toujours sur ce système d'anneaux sous vide, avec des particules. Tout un chacun ne sait pas très bien ce que c'est qu'une particule, mais qui tourne là-dedans à une vitesse très, très grande.
Tout à fait. Et
il y a des similitudes.
Voilà, il y a effectivement sur la technologie. Mais les objectifs sont radicalement différents. Parce que l'objectif d'un collisionneur du type CERN, c'est d'envoyer des rayons en sens opposé, de les faire collisionner et d'analyser ce qui se passe à l'intérieur des particules. C'est-à-dire regarder ce qu'on appelle faire de la physique subatomique. Le synchrotron, ce n'est pas du tout ça. En fait, on a des particules qui sont des électrons qui tournent avec des vitesses proches de la lumière et qui génèrent des rayons X. Le but dans la vie des électrons ou synchrotrons, c'est de générer des rayons X.
Parce que les électrons ont un but dans la vie.
Et
Yannick,
oui,
qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, les électrons ont un but dans la vie, c'est bien connu.
Vous savez, c'est comme dans Tintin, Objectif Lune, où il visite le réacteur nucléaire, et je crois que c'est le professeur Tournesol qui parle du devenir des atomes de plutonium, et le capitaine Haddock répond « Oui, que deviennent-ils? Je suis inquiet pour eux. »
Alors j'ai dit ça à dessein, parce que en fait, les électrons ont une durée de vie. Quand vous allez
Donc ils vivent.
Donc ils ont une vie.
Tout à fait. Mais bon,
allez-y, on vous laisse reprendre un peu l'explication.
Donc on génère des rayons X très puissants. Souvent, alors, quand on veut simplifier à l'extrême, on dit que ces photons sont ensuite utilisés pour faire de la radiographie. Typiquement, quand on va chez le médecin et qu'on a tous vécu l'expérience d'une radio, et ça fait des belles images. Mais c'est une image un peu simplifiée. Le synchrotron, c'est beaucoup plus que ça. C'est un peu un couteau suisse, si on veut. Alors, le synchrotron va vous permettre de répondre à beaucoup de questions. La question principale, c'est où sont les atomes dans la matière. On peut aussi répondre, est-ce que ce matériau est isolant ou conducteur? Est-ce que ce matériau est magnétique ou non magnétique? Enfin, le synchrotron vous donne des réponses à énormément de questions. Alors, et on a souvent tendance à simplifier à l'extrême.
On va venir peut-être un peu plus tard dans notre conversation aux applications, puis on s'attardera sur un certain nombre de ces applications qui peuvent être plus ou moins spectaculaires. Mais revenons quand même sur le principe de la machine et puis sa puissance aussi. C'est vrai que c'est aussi vous parliez de couteau suisse, mais c'est une lame très acérée parce que c'est de l'énergie, un faisceau d'énergie pure. Je crois que j'avais lu quelque part que intuitivement, quand on touche une ampoule à incandescence telle qu'on en avait, il n'y en a presque plus, mais bon, ça brûle. C'est à peu près l'énergie dégagée par l'ampoule à incandescence qui est ramenée en un millimètre carré ou quelque chose comme ça. Donc
tout à fait.
En fait, c'est sharp.
C'est pour ça que la comparaison avec la radio, elle est limitée, parce que quand on fait une
radio...
Radiographie, oui. Oui, la radiographie, tout à fait. Parce que, chez le médecin, parce que le faisceau est très large, et très étendu. Là, effectivement, les propriétés des électrons qui sont à des très grandes vitesses permettent d'émettre des rayons dans un cône de lumière extrêmement fin et qui permet d'atteindre effectivement des densités de lumière par millimètre carré qui sont très élevées. Et c'est ça qui va donner toute sa force à cet instrument.
Toute la saveur à l'affaire.
Tout à fait.
Alors, voilà. Cette machine qui est quand même très grande, le diamètre, c'est quoi, Yannick?
C'est presque 300 mètres.
D'accord. Et ça fonctionne jour et nuit?
Jour et nuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
C'est-à-dire que les électrons parcourent un cercle dont le diamètre est de 300 mètres.
C'est ça.
C'est ça. Et donc, il a fallu loger ça dans un bâtiment en forme d'anneau que tout le monde peut voir, comme je le disais à l'entrée de l'émission, par exemple depuis la Bastille.
Depuis la Bastille.
Mais c'est vrai qu'il a une forme très particulière. Et donc autour de cet anneau, il y a ces fameuses expériences qui exploitent ce rayonnement dit synchrotron. Hein. Elles ont toutes une spécificité. Il y en a combien des lignes de lumière? Vous les appelez lignes de lumière, des installations, des expériences?
Il y a 44 lignes de lumière actuellement. Et on en a en construction également. Et
chacune est optimisée pour répondre dans un champ donné d'expérience.
Exactement, exactement. Chacune est spécialisée dans certaines expériences pour répondre à certaines questions. Toutes sont différentes, mais toutes utilisent la même source.
Alors, on va aller faire un petit tour, si vous voulez bien, un peu du côté de la région parisienne. Je vais vous emmener à la rencontre d'un monsieur qui est un pionnier du rayonnement synchrotron en France. Et lui, il a travaillé sur une machine qui était aussi donc une machine de rayonnement synchrotron, qui était aussi une machine finalement qui se rapprochait du CERN au départ, puisque c'était un anneau de collision qui était au départ conçu pour faire ces collisions que vous évoquiez, Mohamed, pour le CERN, hein, et qui a été détourné de son usage pour faire du rayonnement synchrotron. C'était la première machine dédiée avec une équipe de pionniers là en région parisienne. On va l'écouter tout de suite il était face au tableau de commande de l'accélérateur linéaire qui injectait cet anneau.
C'est un tableau synoptique, comme on dit, comme une garde, un aiguillage. C'est avec des tas de petits boutons partout, tout ça a disparu. Tout ça maintenant tiendrait sur une table avec un ordinateur un peu puissant. Mais ici, ça fait quand même une dizaine de mètres au total, avec je ne sais pas combien, mais plusieurs centaines de petits boutons et de petits cadrans à aiguilles qu'on pouvait agiter les uns après les autres.
L'avantage par rapport à un ordinateur, c'est qu'on peut voir la réalité des choses puisqu'on a un certain nombre de schémas qui représentent des plans parfois illuminés en fonction du fonctionnement des machines, où on voit donc les différentes salles et les endroits où le rayonnement était distribué.
Voilà, exactement. C'était un accélérateur linéaire et qui a desservi trois anneaux successivement. Il produisait les électrons et les positrons pour les rentrer dans trois anneaux dans lesquels on faisait des collisions électrons-positrons.
Chaque week-end sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
10h15 sur RKS L'Esprit Grenoblois, le miroir des sciences avec Sébastien Berger, mon complice sur cette émission, et puis surtout nos deux invités, Yannick Lacaze et Mohamed Mézouar de l'ESRF, qui nous parlent donc de cet outil très particulier et tout à fait unique, même au monde, on peut le dire, depuis quelques mois, qui est ici à Grenoble.
Oui, donc ce synchrotron grenoblois a déjà quelques années d'existence. On peut même dire que c'est un vieux monsieur, ou une vieille dame peut-être. Est-ce que le synchrotron est un homme ou une femme? Comment vous le voyez?
Je ne sais pas, il est à genre.
Ouais. il n'est pas sexué, d'accord. Voilà. Voilà, donc il a quelques décennies même d'existence. Et,
on dit la machine, ou ouais. L'accélérateur, ou qu'est-ce le qu'on dit encore?
Voilà, et donc très récemment, comme on l'a dit tout à l'heure, il a connu une jouvence, un arrêt pour des travaux de mise à niveau et d'amélioration de ses performances. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, alors, il a à peu près 20 ans, donc à 20 ans, on est encore jeune, mais on peut quand même encore s'améliorer. Donc l'idée de cette amélioration est venue il y a quelques années, et elle est basée en fait sur une reconstruction complète de l'anneau de stockage, là où sont stockés les électrons, où on va disposer beaucoup plus d'éléments magnétiques. Et finalement, on peut résumer l'amélioration de ce synchrotron par rapport au précédent, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la finesse du faisceau, dans la direction, une des directions, c'est la direction horizontale, où on a réduit d'un facteur 20. Donc on a condensé le faisceau beaucoup plus, qui va permettre d'atteindre des intensités par millimètre carré beaucoup plus élevées, donc pouvoir faire des expériences beaucoup plus rapides, et avec bien mieux résolu aussi dans l'espace, puisque la source est plus petite.
Est-ce que c'était vraiment, est-ce que c'était une nécessité de changer comme ça tout le contenu de l'anneau, d'améliorer ainsi ses performances? C'est quand même des très très gros travaux.
Tout à fait. Alors évidemment, il y a eu toute une étude, il y a eu un cas scientifique qui a été développé pendant des années pour voir effectivement quel serait l'impact. Alors c'est très difficile de faire des prévisions en science, mais quand même, il y a eu un cahier, ce qu'on appelle Purple Book, un cahier violet, dans lequel étaient définies certaines expériences qui ne sont pas possibles avec l'instrument qu'on a aujourd'hui et qui vont le devenir.
D'accord, on a fait fois 100 avec les performances. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut aller plus vite, on peut aller plus précis, plus loin ?
Il y a beaucoup d'aspects qui ont été améliorés. Je ne vais pas entrer trop dans les détails techniques, mais effectivement, l'aspect principal, c'est qu'on a réduit ce qu'on appelle l'émittance horizontale. On a ramené le faisceau. On l'a condensé dans la direction horizontale énormément, donc ça permet d'atteindre des puissances, des intensités beaucoup plus hautes. Mais aussi, on a amélioré ce qu'on appelle la cohérence du faisceau. La cohérence, ça va permettre d'obtenir des images de bien meilleure qualité, par exemple.
D'accord.
Il y a d'autres aspects, mais...
Voilà, donc un an et demi d'arrêt. Qu'est-ce que font les chercheurs pendant qu'il n'y a pas de faisceau, pendant que cette machine est arrêtée ?
Les chercheurs continuent de chercher.
Oui, non, mais la question, c'est ce qu'ils trouvent.
On est chercheurs, on n'est pas trouveurs.
Non, non, mais la question de Sébastien, c'est effectivement comment se poursuit la vie scientifique
Bien
du
sûr.
Laboratoire,
alors
que la grande machine...
Alors, il y a eu plusieurs choses. Effectivement, les gens, ça leur a donné du temps pour avoir du recul sur les nouvelles expériences. Il y a eu aussi... Alors, il n'y a pas que l'accélérateur qui a subi une rejouvence. Il y a aussi... qu'on a évoqué tout à l'heure, les lignes de lumière. Par exemple, celle où je travaille va être complètement refaite pour exploiter de manière optimale la nouvelle source. Parce qu'on a une nouvelle source, il faut derrière que tout suive. Si on génère une source qui est très puissante, mais qu'ensuite on ne peut pas exploiter cette source, on a un problème. Donc il y a eu énormément de travail aussi côté expérience, côté détecteur, côté...
Alors on va venir sur les expériences dans la prochaine étape de notre conversation. Il y a une chose que je retiens de ce que vous venez de dire, Mohamed Mezwar, c'est que vous aviez préparé tout ça avec un cahier violet. Et nous, à RKS, on aime beaucoup le violet. On se retrouve dans un instant pour le Miroir des Sciences.
Roses and whiskers and kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my
RKS, le miroir des sciences. Nous sommes aujourd'hui, nous parlons de l'ESRF et de sa nouvelle machine, l'EBS, avec Yannick Lacaze et Mohamed Mezwar. Sébastien Berger.
Oui, juste pour dire que nous venons d'écouter Yoon Sumna, qui interprète My Favorite Things. Cette chanteuse, au passage, est programmée à la MC2 cette année.
Alors, donc, il faudra pas la manquer. Vous avez les dates ? Vous nous les donnerez un peu plus tard.
Pas de tête.
Alors, quelques exemples de réalisation. On a parlé donc de la machine. Maintenant, parlons de à quoi elle sert. Yannick Lacaze, peut-être ?
Oui, elle sert à beaucoup de choses. Et surtout, comme disait Mohamed, grâce à la nouvelle machine, on pourra aller encore plus loin. En particulier, actuellement, c'est vraiment d'actualité, on fait des recherches liées à la Covid. Et donc la structure du virus, par exemple, et aussi de l'imagerie, plus précisément comme on fait en radio, mais beaucoup plus précis.
Mais alors, je ne comprends pas, parce que le faisceau est revenu, Le 25 août, là.
Exactement. Hein,
donc, vous me dites, ne m'embobinez pas. Parce que vous me dites que vous faites des études sur la Covid, mais oui. Vous venez de nous raconter que vous n'aviez pas de faisceau pendant un an et demi, si j'ai bien écouté. Alors,
effectivement, mais on a repris directement le 25 août.
D'accord.
On est très, très efficace.
Ouais.
Donc voilà, donc imagerie d'organes complets par rapport à la Covid, poumon, rein. Sinon, dans d'autres...
Organes complets.
Ouais.
Alors, j'ai envie de dire, en tant que béotien, effectivement, bon, on évoquait d'ailleurs la radiographie chez le médecin. On a tout un tas d'outils dans les hôpitaux pour faire de l'imagerie. On a vraiment besoin de venir sur une machine comme ça. Qu'est-ce que ça apporte de plus?
Beaucoup, beaucoup de précision et une bien meilleure compréhension beaucoup plus fine de ce qu'on observe, en fait.
Et est-ce qu'on a les réponses à nos questions instantanément, comme lorsqu'on va chez le médecin?
Alors, pas forcément instantanément. Il y a quand même du traitement derrière, du traitement des données obtenues.
Autre application?
Oui, on travaille pas mal sur les batteries, tout ce qui est énergie de manière générale, sur la charge et la décharge des batteries. Donc, peut-être qu'on aura de meilleures batteries grâce à nous dans les téléphones portables, peut-être, ou des choses comme ça.
Alors, quel genre d'expérience ou quel genre de questions vous posez sur les batteries?
Justement, comment ça fonctionne, ce phénomène de charge et de décharge, vraiment à l'intérieur de la batterie, pour essayer d'optimiser tout ça.
D'accord.
Donc, vous avez beaucoup de recherches qui concernent directement les grandes questions de société actuelle. Comment vous faites pour faire connaître les résultats que vous obtenez?
Alors, plusieurs possibilités. Vis-à-vis du public, bien sûr, on va avoir des actions... comme la fête de la science, par exemple, on y participe et ça nous permet d'expliquer tout ça. On va passer à la radio, ce qui est plutôt pas mal aussi.
Vous êtes en train, là, hein. Vous ne vous rendez pas compte,
oui,
mais
ça.
C'est en direct.
Je le disais,
hein.
Aussi.
Il n'y aura pas de coupure.
Ah, il n'y a pas de coupure, mince. Donc, du coup, voilà, c'est des actions de ce type-là. Beaucoup d'actions aussi vers les jeunes, pour essayer de faire comprendre tout ça. Et puis après, des publications dans les journaux, bien sûr. Ça, c'est pour tout ce qui est grand public. Après, de manière plus spécialisée, bien sûr, on va communiquer vers les scientifiques. Et là, ça passe plutôt par des articles scientifiques.
Alors, il y a les articles scientifiques relus par les pairs, etc., qui rentrent dans le système. Et puis, il y a une publication qui peut-être être intermédiaire entre le grand public et, bon, en tout cas pour des passionnés de science, il faut pouvoir lire en anglais, il faut quand même un peu s'accrocher, parce que le niveau scientifique est quand même pas mal. C'est la revue qu'on peut consulter sur votre site web, où il y a pas mal de choses d'actualité, aussi bien sur la machine que sur ces applications.
Effectivement, plusieurs fois par an, on publie cette revue ISRF News, accessible sur notre site web gratuitement, mais c'est vrai que c'est un peu plus pointu que ce qu'on peut avoir dans les journaux des grands médias et tout ça. Mais c'est intéressant.
Alors Yannick, donc vous jouez à domicile sur cette question, puisque évidemment vous êtes chargé de médiation, chargé de visite, etc. Donc c'est tout à fait naturel que vous répondiez sur la question de Sébastien, sur comment toucher le public. Mais est-ce que vous arrivez à embarquer les scientifiques qui sont dans la véritable pratique de la recherche, et par exemple des collègues comme Mohamed qui est à côté de moi, est-ce que vous arrivez de temps en temps à le décider à venir avec vous pour aller toucher des publics qui ne sont pas le public des scientifiques?
Oui, globalement, les scientifiques à l'ESRF sont assez sympas. Et donc, du coup, c'est vrai que quand j'ai demandé à Mohamed de venir aujourd'hui, il a accepté tout de suite. Et donc, on arrive assez facilement à amener des scientifiques sur des événements grand public ou à la radio, comme aujourd'hui.
Alors, on comprend facilement que... vous puissiez expliquer et intéresser les publics aux résultats que vous produisez sur la Covid, sur les batteries électriques, etc. Est-ce que vous vous attaquez au problème un petit peu plus compliqué, peut-être, d'expliquer comment fonctionne la machine, comment vous obtenez les résultats?
Oui, alors en particulier avec les scolaires, je fais beaucoup ça, avec le grand public aussi. Bien sûr, on ne peut pas rentrer dans les détails sur exactement comment ça fonctionne techniquement, scientifiquement, mais on arrive à aller assez précisément. Et globalement, le public comprend assez bien ce qu'on fait, comment ça marche, cette machine.
Et qu'est-ce que vous recommanderiez à nos auditeurs qui se passionnent pour la science et qui voudraient en connaître un peu plus sur le SRF, son fonctionnement, les expériences qui y sont menées? Est-ce qu'il y a d'autres médias que ceux que François a cités tout à l'heure?
Ouais, quelque chose de plus abordable que ISRF News.
Est-ce que vous recevez du public, par exemple? Est-ce que vous vous adressez à eux régulièrement?
Alors, pour ce qui est des médias consultables, plus accessibles que ISRF News, sur notre site internet, on a toute une partie grand public qui est écrite en, en français. Parce qu'il y a une, toute une partie écrite en anglais aussi, si vous voulez, hein, c'est possible. Cette partie est vraiment accessible, explique le fonctionnement de la machine, des choses comme ça. Ensuite, au niveau réception du public, ce sera plutôt du public scolaire qu'on va recevoir, des classes qu'on va recevoir toute l'année.
On va continuer à parler de BS, SRF et surtout des applications et on demandera plus particulièrement à Mohamed ce qu'il fait sur sa ligne, ce qu'il fabrique sur sa ligne de lumière. Hein. Mais pour l'instant, on va s'interrompre un instant et on va écouter ensemble une petite chronique qui a été diffusée quotidiennement sur RKS et qui s'appelle « Le monde qui vient » et qu'on a décidé de reprendre à notre compte dans le cadre de ce magazine.
Pascal Maillet, bonjour.
Bonjour.
Alors Pascal Maillet, pour vous, qu'est-ce que c'est que cette crise ?
C'est une crise dans le sens où, au-delà de l'aspect médical et des morts, quand on reviendra au travail plus tard, est-ce que cette perte de lien social va perdurer ? Quelle sera sa réversibilité ? Comment est-ce qu'on va percevoir finalement le retour à l'équilibre après cette crise ? Et ça, c'est quelque chose d'absolument pas évident, au-delà bien sûr de tous les aspects exhaustifs de crise sociale, sociétale, industrielle. Voilà. Mais le premier impact pour moi, ça a été ça, c'est de, du jour au lendemain se retrouver distancié de mes collègues avec qui j'ai l'habitude de travailler.
Alors Pascal Maillet, vous êtes chercheur en bioélectronique et vous travaillez au CEA de Grenoble, au laboratoire d'électronique et de technologie de l'information, et vous êtes responsable scientifique d'un département de recherche qui s'intéresse aux applications biomédicales. Quelles sont les grandes questions que vous vous posez dans votre métier ?
C'est vraiment les problématiques autour de la propagation. Quels sont les vecteurs de la propagation et comment mieux les maîtriser. On aperçoit à l'heure d'aujourd'hui un manque dans la chaîne analytique qui permet finalement d'aller trouver l'échantillon là où il se trouve par des prélèvements, que ce soit sur les personnes, sur les surfaces, etc., et avoir des vraies mesures sans faux négatifs qui permettent de mieux appréhender la façon dont, dont le virus se propage. Et ça, c'est un point crucial pour l'avenir de ce genre de pandémie.
Au stade actuel où nous sortons de cette crise, en tout cas ici en Europe et en tout cas d'un point de vue médical et sanitaire, comment vous voyez le monde qui vient ?
Donc on avait un monde avant, un monde après, avec ce côté ultra-libéral, tout ouvert, complètement mondialisé, avec des problèmes environnementaux avant. Cette crise, elle nous fait repenser à ces problèmes environnementaux, à ces problèmes de flux, de matière, de virus, de tout ce qu'on veut. Et donc, il va falloir repenser le monde de demain à cette complète ouverture et revenir à quelque chose qui soit plus centré autour des personnes, sans être coupé du monde, comme il y a eu un blackout, là, finalement, dans les derniers temps, par l'arrêt des avions, etc. C'est vraiment repenser à un monde qui puisse subvenir à ses propres besoins sans avoir totalement besoin de la mondialisation, mais sans non plus le fermer complètement.
Mohamed, Yannick, en deux mots, il est comment le monde qui vient selon vous ?
Je peux démarrer. Je pense qu'il ne sera pas très différent de celui qu'on pense avoir quitté, mais qu'on n'a pas quitté. Je pense que la crise qu'on vient de vivre, c'est plutôt comme un mouvement de balancier. C'est-à-dire que on s'est éloigné de l'équilibre et on y revient. On entendait les petits oiseaux au centre-ville, maintenant on ne les entend plus. Il y a plein de choses qui sont revenues à la normale. Les gens aspirent finalement à revenir à quelque chose de normal.
On avait le temps de faire des brioches, on n'a plus le temps. Voilà.
Ah oui, c'est dommage. Hein.
Yannick.
Mais je crois qu'il faut être optimiste quand même sur le monde de demain. C'est vrai qu'il faut espérer que cette crise ait un peu ouvert les yeux des gens et qu'on aille vers du meilleur, du encore mieux, j'ai envie de dire.
Vous écoutez Le Miroir des Sciences sur RKS, l'esprit grenoblois. On revient dans un instant.
Les bras tout chargés de fleurs, je suis entré dans notre chambre, le cœur là, car je savais déjà que tu ne viendrais pas, et j'ai chanté des mots d'amour et de douleur. Je suis resté toute seule et j'ai pleuré tout bas en écoutant hurler la plainte des frimas. Sombre dimanche. Je mourrai un dimanche où j'aurai trop souffert. Alors tu reviendras, mais je serai parti. Des cierges brûleront comme un ardent espoir. Et pour toi, sans effort, mes yeux seront ouverts. N'aie pas peur, mon amour, s'ils ne peuvent te voir. Ils te diront que je t'aimais plus que ma vie. Sombre dimanche.
Le miroir des sciences sur RKS. Aujourd'hui, nous parlons de l'ESRF, l'EBS, cette machine fantastique qui est au bout, tout au nord de Grenoble et qui fait de la science, avec Yannick Lacaze et Mohamed Mézouar qui travaillent dans cet auguste institut. Je vous avais promis, messieurs, que notre conversation serait hachée, interrompue. En voici la démonstration tout de suite, mais vous allez voir que c'est pour la bonne cause. Un petit jingle pour l'agenda. S'il vous plaît, Jérôme, on va y arriver.
Il arrive.
Et puis ensuite, normalement, on devrait être au téléphone avec une copine à nous qui organise de la science dans des bars. Bon, sinon, on peut la prendre comme ça. Vous voulez que je chante le jingle ? Ta, ta, yo, yo. Hop, pardon. Bon, bah, évidemment, on l'a tous en tête aujourd'hui, puisque Annie Cordy a disparu. Voilà comment on meuble. Dans une émission de science, sur des trucs très intéressants. Voilà, ce petit jingle, vous allez vous y habituer. Il est un petit peu violent, mais c'est celui de notre agenda. Bon, c'est quand même au téléphone. Hein. Alors, vous savez pas quoi faire? Ben, nous, on a quelques idées et on est au téléphone donc avec Maud Perrault. Bonjour, Maud.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes une des co-organisatrices avec votre complice Alexandra du festival Pint of Science sur Grenoble. Vous êtes bon, je vais le dire comme ça, vous me direz si c'est vrai, vous êtes un peu désœuvré cette année puisque cette septième édition qui devait se dérouler dans 62 villes finalement aura lieu en ligne à partir de lundi. Alors, Pint of Science, c'est un festival mondial, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Nous sommes dans 21 pays pour 2019 et on a encore des pays qui nous rejoignent chaque année sur tous les continents.
Alors, un petit aperçu sur le programme exceptionnel cette année.
Du coup, cette année, on aura 3 heures de conférences, donc d'échanges à suivre le lundi et mardi sur la page Facebook Pint of Science.
C'est bien lundi et mardi prochain. Hein.
Tout à fait.
Allez-y, sur la page Facebook de Pint of Science et puis aussi sur la page de Pour la Science, qui est le magazine partenaire de l'opération.
Tout à fait.
Et ces conférences, elles sont données dans différentes villes? Il y a des scientifiques qui contribuent de la France entière ou tout est centralisé à Paris? Encore une fois.
Non, non, toute la France entière participe. Toutes les villes et bénévoles, bien sûr, de Pint of Science France ont donné leur intervenant volontaire pour ce live. Donc ça reste un événement national.
Il y a des Grenoblois?
Oui, on a 2 Grenoblois cette année qui participent en StarTech.
Et puis, mercredi, un grand quiz.
Très grand quiz, oui, je vous invite à participer.
Oui, vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Bien sûr, le quiz, c'est la tradition Pint of Science. Hein. À chaque événement, un quiz est réalisé par soirée. Donc cette année, forcément, il fallait qu'on en ait une. Et on arrive à nos fins sur Facebook, avec nos partenaires, à faire gagner des goodies pour toutes les personnes qui vont venir écouter ce quiz, qui sera organisé par notre directrice en plus. Bon, là, cette fois-ci, c'est Paris.
Élodie.
Par Élodie, tout à fait, Élodie Chabrol, en médiatrique, en communication.
Oui, oui, oui. Et donc le but, évidemment, toujours, est de faire passer des messages et d'intéresser le plus grand nombre à la recherche, la science en général. Et cette activité qui consiste à organiser des séances dans les cafés, alors cette année c'est un peu spécial, là on est en mode YouTube, qu'est-ce qui vous a donné le goût personnellement à vous de vous y mettre ?
Ça a été avec Alexandra, on a été bénévoles une année à Pinto Science, on les a rencontrés dans un bar, on a tout de suite accroché. Toutes les deux, on a un background scientifique, notamment en biologie, elle est docteur en biologie et moi je travaille en biologie moléculaire. Et on a adoré le concept, donc on a repris l'assaut et on continue ça à Grenoble.
Alors Yannick Lacaze, vous qui êtes médiateur à l'ESRF, ça vous tente pas ça d'aller dans les bars ? Vous avez déjà participé à des expériences comme ça ?
Effectivement, les deux dernières éditions de Point of Science, on a amené plusieurs chercheurs de l'ESRF. Hein, et cette année, c'était prévu aussi, mais les choses évoluent forcément avec les conditions sanitaires.
Et Mohamed, vous fréquentez les bars ?
Oui, mais pas forcément celui-là. Mais oui, j'irai volontiers, oui, ça a l'air très, très sympa.
Voilà, bon, Maud, je vous ai trouvé un nouveau client pour l'année prochaine quand on pourra être en live de nouveau dans les cafés grenoblois.
Oh, bah, très grand plaisir, on peut discuter de ça autour d'une bière, pas de problème.
Allez, vous nous faites le wrap-up de votre événement, vous nous rappelez où on peut vous suivre, quand on peut vous suivre.
Eh bien, je vous invite lundi, mardi sur Facebook Pinto Science France et sur la chaîne YouTube Pinto Science France et aussi sur notre partenaire de magazine scientifique
pour
la science. 3 heures de conférence et le mercredi pour le grand quiz.
Voilà, il y avait 14 000 participants dans toute la France l'an dernier en live, 140 000 dans le monde entier. Donc, on vous souhaite beaucoup de monde sur les réseaux sociaux pour ce rendez-vous Pinto Science exceptionnel. Merci à vous, Maud Perrot. Pendant que Maud nous parlait de Pint of Science, on a proposé l'exercice qui sera traditionnel dans cette émission à nos deux invités. Ils ont découvert la collection des miroirs du miroir des sciences et ils ont choisi chacun un miroir. Alors j'imagine, messieurs, que en plus le miroir, c'est un objet technologique, c'est un objet du quotidien, c'est un objet d'observation scientifique traditionnelle et historique. Et puis, chez vous, c'est un outil tout à fait particulier qui fait partie de votre quotidien. Sauf que ce n'est pas forcément des miroirs qui tiennent sur la table que vous avez. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi, Mohamed ?
Moi, j'ai choisi celui-ci.
Alors, il faut le décrire, on
oui,
est à la radio,
alors,
n'oubliez
alors,
pas.
Alors, il est... tout à fait... je dirais que c'est un objet un peu ancien. Donc j'aime pas trop les objets trop modernes. Hein, finalement, c'est étonnant hein, pour quelqu'un qui travaille au synchrotron. Donc en tout cas dans mon quotidien, et je trouve qu'il est très joli. Il a un habillage sans doute de bronze avec une poignée. Donc c'est un petit miroir à main qui fait à peu près 20 cm de long. Il m'a l'air très très sympathique. Après, ce que je peux penser du miroir, c'est que, bon, un miroir, ça peut être cruel, ça renvoie son image. Mais voilà, et c'est vrai que dans l'univers synchrotron, on en a partout. Par exemple, sur l'expérience où je travaille, il y a des miroirs absolument partout. C'est comme la galerie des glaces à Versailles, mais en miniature. Si on veut, avec,
oui, c'est pour manipuler ce fameux faisceau voilà. Tout petit
alors, dans les expériences
sélectionnées.
Alors pour les rayons X, c'est des miroirs très particuliers, parce que les rayons X passent à travers le verre. Donc on n'utilise pas du verre typiquement pour dévier les rayons X, on utilise la technologie du silicium. Alors que, par contre, autour des expériences, il y a, par exemple, dans l'expérience où je travaille, on travaille avec des lasers, et là, on est dans le visible, et à ce moment-là, on utilise des miroirs communs, on va dire, avec en verre. Et il y en a énormément. À chaque fois qu'il faut dévier un faisceau, l'amener à l'endroit où on le souhaite, à ce moment-là, on utilise...
Et ils sont d'allure beaucoup plus moderne que celui que vous avez choisi, là.
Oui,
un peu plus et moderne. Et que celui que Yannick a
sélectionné. Et celui-ci est très bien aussi. Ça me rappelle aussi Tintin, parce que, voilà, c'était... Donc, quand j'étais gamin, comme beaucoup d'enfants, je pense qu'on a été bercés par Tintin. Donc, c'est un miroir qui aurait pu faire partie de cet univers.
Alors Yannick, votre miroir, vous pouvez nous le décrire ?
Il est également ancien aussi, un peu comme Mohamed, je pense. J'aime bien les objets de style ancien, même si je travaille au synchrotron, bien sûr. Il s'agit d'un miroir à main également, style ancien donc, mais plutôt assez ouvragé.
assez un peu vieux quand même. Hein. Un peu rayé aussi d'ailleurs.
Enfin, dites quand même qu'il a l'air romantique.
Ah oui, qu'est-ce qu'il est beau ce miroir. En plus, je me vois dedans, donc c'est chouette.
Alors ça, c'est très très amusant de voir que tous les deux, vous avez choisi effectivement des miroirs un peu à l'allure ancienne, qui font appel aussi à l'imaginaire, soit l'imaginaire historique, soit l'imaginaire romantique, hein, puisque je vois Yannick avec dans la main son miroir de fée clochette, là. Vous avez quand même dans la collection, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité d'ouvrir les petites boîtes, là, des miroirs qui ressemblent plus à ce que vous avez au quotidien. Mais enfin bon, on y reviendra. Quand vous reviendrez dans l'émission, vous ferez peut-être un autre choix et puis vous aurez d'autres commentaires. Ce qui est intéressant peut-être à ce point de notre émission, c'est que vous nous parliez un peu de votre parcours l'un et l'autre. Mohamed, peut-être ?
Alors, bon, j'ai un parcours. Je suis originaire de la région
chercheur
parisienne.
Pourquoi, comment on arrive
pourquoi dans cette, bon, j'ai dans toujours cette été intéressé
et
par
dans la science. Dans ce milieu qui est quand même extrêmement compliqué et donc presque confidentiel. Tout le monde n'y va pas, quoi.
Non.
Vous avez un métier atypique.
Oui, je pense que chacun a son parcours pour des raisons très personnelles. Moi, j'ai toujours été attiré par la science, effectivement, très jeune. Et voilà, donc après, les matières scientifiques m'ont intéressé. Ensuite, plus tard, des rencontres, bien sûr, avec des professeurs qui vous encouragent. Voilà.
Et comment on arrive dans un endroit comme ça qui paraît effectivement assez inaccessible, un peu retiré du monde ?
Alors, par exemple, effectivement, très jeune, j'ai voulu être chercheur ou m'intéresser à la science, mais le synchrotron, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, comment on y atterrit, c'est vraiment un peu le hasard des parcours et des thématiques qu'on a suivies au cours de son évolution à l'université, puis pendant la thèse. Et bon, c'est quand même un endroit quand même assez unique. Pourquoi je suis venu à Grenoble ? Essentiellement parce que les possibilités qui étaient offertes étaient au départ immenses. Quand je suis venu au synchrotron, c'est quand même il y a un moment, c'était déjà une machine qui était unique au monde. Ensuite, il y en a eu d'autres qui ont été construites, donc il y avait des possibilités fantastiques qui étaient offertes par cet instrument.
Et vous, Yannick, du hasard également ?
C'est un peu du hasard, mais du hasard un peu cherché quand même. J'ai toujours été intéressé par la science. J'ai fait des études de géologie, j'ai toujours voulu être géologue. Bon, je ne suis pas géologue actuellement, mais j'ai toujours voulu être géologue. Et après, j'ai un petit peu dévié, de la recherche en géologie, disons, pour m'intéresser à la communication scientifique. Et c'est vrai qu'au hasard des recherches d'emploi, il y avait eu une offre de chargé de communication à l'ESRF. Je ne connaissais pas spécialement les synchrotrons, mais vu l'offre très très variée des différentes disciplines scientifiques, je me suis dit que ça pouvait être potentiellement quelque chose de vraiment intéressant à découvrir. Et voilà, j'y suis toujours.
Et vous ne vous sentez pas enfermé dans ce microscope géant qui est quand même hyper technologique, hyper urbain, alors qu'effectivement, dans votre parcours, puisque vous m'avez renseigné avant d'arriver, n'est-ce pas, vous avez travaillé sur une exposition dans un écomusée, vous avez travaillé comme géologue, vous le disiez, en Australie et en Macédoine, hein. Voilà, donc vous avez quand même des expériences qui vous mettaient au grand air. Donc là, vous êtes tout d'un coup dans cette cocotte minute, un peu enfermé, non ?
Oui, peut-être vous avez l'impression de tourner en rond un petit peu.
Bien joué, Sébastien.
Effectivement, le contexte n'est pas du tout le même, d'un point de vue physique, disons, parce qu'on est quand même un peu dans un anneau. Hein. Mais ce qui est très intéressant à l'ESRF, c'est le contexte humain, avec tous ces gens du monde entier qui travaillent là ou qui viennent faire des expériences. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable.
Ah oui, on n'a pas mentionné,
oui,
effectivement.
C'est un point qui est important de mentionner. ESRF, il y a un mot qu'on n'a pas abordé, c'est le E de European. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent d'autres pays. Hein. C'est une coopération internationale de différents pays. Il y a combien de pays qui collaborent dans ce synchrotron ?
Alors, d'un point de vue de la gouvernance du synchrotron, c'est 22 pays, principalement européens, mais un petit peu aussi à l'extérieur de l'Europe. Mais au niveau des gens qui travaillent au synchrotron, c'est une quarantaine de pays qui sont représentés. Donc ça fait vraiment, vraiment beaucoup de gens.
C'est-à-dire que c'est un appareil qui est ouvert au travail pour des chercheurs qui viennent de plein de pays en Europe et au-delà.
Exactement, de n'importe où, on peut venir faire des expériences à l'ESRF.
Mohamed Mezouar, alors on revient aussi sur votre parcours. Et donc, vous, vous êtes responsable d'un groupe qui s'appelle Matière sous conditions extrêmes. De quoi s'agit-il ?
Tout à fait.
Je vous pose la question de façon très ouverte.
Donc, déjà, dans le SRF, l'organisation de l'ESRF, il y a des groupes, il y a plusieurs groupes qui sont organisés par thématique. Et voilà, il y a la biologie structurale. Il y a un groupe qui s'appelle Matière sous conditions extrêmes. Les objectifs de ce groupe est effectivement d'étudier des matériaux qui sont soumis à des conditions. Quand on parle de conditions extrêmes, on parle de pression, de température, de champ magnétique.
Par exemple, des matériaux tels qu'ils sont au cœur de la Terre.
Tout à fait.
Dans très grande profondeur.
Tout à fait. Effectivement, ça s'adresse beaucoup à la communauté des géosciences, géophysique, qui a un outil qui lui permet d'étudier les matériaux sous conditions extrêmes de pression et de température. Ils peuvent reproduire ces conditions et étudier le matériau in situ.
La difficulté étant qu'évidemment, quand on est sous pression très forte, on a un matériau très dense. Donc là, l'avantage des rayons X qui sont très pénétrants dans la matière, c'est qu'ils peuvent aller scanner l'intérieur.
Oui, et puis c'est la seule méthode pour obtenir des informations précises sur ces matériaux dans ces conditions. Il faut savoir que les prospections par forage de la Terre, c'est limité à quelques kilomètres. Le rayon de la Terre, c'est 3100 kilomètres. Donc, si vous voulez avoir des informations sur ce qui se passe dans le cœur de la Terre, du noyau, le manteau terrestre, jusqu'à la surface, il n'y a pas d'autre choix que de mettre ces matériaux dans ces conditions-là.
10h49 sur RKS, l'esprit grenoblois. Vous écoutez le miroir des sciences. On revient dans un instant.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, waragoweni wagoka, gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude, réputation recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, waragoweni wagoka, gaugu gatoyi. Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'encanaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne.
Chaque week-end, sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
Pam pam, François Legrand ici avec Sébastien Berger et nos invités pour la dernière séquence du Miroir des sciences. On vient d'écouter Gaël Faye et Petit Pays.
Alors on va passer les quelques minutes qui nous restent pour parler de certaines applications qui sont très spéciales. On n'a pas tellement l'habitude de parler peinture ou patrimoine dans le milieu scientifique et pourtant C'est une application sur laquelle vous travaillez et vous apportez des informations très intéressantes.
Tout à fait. En début d'émission, je parlais du couteau suisse. Donc le synchrotron permet effectivement d'explorer un champ énorme d'applications. Et effectivement, il y a des applications chez les collègues pour l'étude des matériaux qu'on appelle d'héritage, avec un potentiel d'héritage culturel.
C'est un anglicisme, oui. Heritage.
Heritage, voilà.
Patrimoine,
tout à fait. Patrimoine culturel, notamment, par exemple, avec des implications sur la préservation, l'étude, par exemple, des pigments, des tableaux, et afin de savoir comment ces tableaux ont été faits. Et aussi, comment on peut les préserver et assurer leur futur.
C'est-à-dire qu'on peut les dater, savoir quelle est la composition des peintures qui ont été utilisées?
Alors, en général, on connaît les périodes pour les tableaux. Donc, la datation, voilà, il y a la signature, on connaît souvent le nom de l'artiste, etc. Et, par contre, ce qu'on ne connaît pas, c'est la nature des pigments qui ont été utilisés, dans quelles conditions. Et pour ça, l'avantage du rayonnement X, c'est que on peut faire du contrôle, je crois, non destructif. C'est-à-dire on peut aller regarder à l'intérieur du tableau sans le détruire. Alors qu'il y a d'autres techniques qui sont beaucoup plus invasives.
À condition de modérer un peu l'intensité de votre faisceau, parce que si vous envoyez plein pot votre énergie...
Tout à fait, mais il y a des tests qui sont faits. Les gens s'assurent que les rayons X ne vont pas détruire, brûler, détériorer l'objet qu'on regarde. Mais voilà.
Donc... J'espère. Hein, vous faites attention. Hein.
Oui.
Dans le magazine ISRF News, là, il y a justement le cri d'Edward Munch qui illustre une actualité sur le sujet. Donc je l'ai trouvé un peu. Tout à fait dans la tendance actuelle. Il faut dire que le cri, c'est quand même l'homme moderne qui est emporté par une crise d'angoisse. Oui. Je le dis comme ça en passant.
Alors, vous avez aussi des applications concernant l'environnement, la préservation de l'environnement. Yannick, vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui, effectivement, c'est quand même une préoccupation assez importante, l'environnement aujourd'hui. Et aussi au synchrotron, on parlait du monde de demain. C'est important d'étudier l'environnement. Par exemple, ce qu'on fait, c'est on étudie le déplacement des nanoparticules dans les sols et on étudie les tournesols, comment les tournesols peuvent travailler sur ces nanoparticules et ce qui se passe justement dans les sols d'un point de vue environnemental.
Pour dépolluer, par exemple,
les sols. Par exemple, exactement.
Très bien. Mohamed, peut-être quelques mots
conclusion.
Oui. quelques mots de conclusion sur vos travaux, sur à quoi sert ce synchrotron et pourquoi c'est important de les mettre à jour et de continuer de les faire évoluer.
Alors, effectivement, là, on découvre un outil qui a des performances potentiellement fantastiques. Donc, alors, la recherche, évidemment, il y a une part d'incertitude. On va travailler sur des sujets qui n'était pas possible d'aborder avant. Et on espère évidemment que faire avancer dans des tas de domaines. Et le synchrotron, justement, comme c'est pluridisciplinaire, l'objectif, c'est vraiment de faire avancer la science au global.
Le Miroir des Sciences, une émission de François Legrand et Sébastien Berger, réalisée par Jérôme. Merci. Merci à Mohamed Mézoir et Yannick Lacasse qui étaient avec nous pour cette grande première. Petit hommage à Pierre Dez, donc pionnier du rayonnement synchrotron dont on a entendu la voix dans la première séquence de l'émission et qui supporte cette association qui s'appelle Science Aco, qui sera ouverte d'ailleurs sans doute la semaine prochaine pour les Journées du Patrimoine, dans 15 jours je crois. Merci, mais c'est en Ile-de-France, donc les auditeurs grenoblois ont un peu plus de mal à y aller. Merci à Maud Perrault, le festival Pint of Science online cette année, très exceptionnellement c'est du 7 au 9 septembre et ça commence donc lundi. Vos commentaires, vos idées, vos réactions sur la page du Miroir des Sciences sur Facebook ou sur la page de la radio RKS, bien sûr. Émission à réécouter en podcast sans modération à partir du site web de la radio. On se retrouve
la semaine prochaine, à la même heure et toujours sur RKS. Enfin, j'espère, Jérôme, oui. On n'est pas viré, en compagnie d'Yves Exbraya, qui est le patron de l'Office de tourisme Grenoble-Alpes-Métropole. Alors, je confie comme ça entre nous qu'il va bientôt quitter ses fonctions, rattrapé par l'âge. Et donc, ça sera peut-être une émission un peu testimoniale, on dirait, pour faire un anglicisme encore. En tout cas, nous évoquerons le tourisme du futur et les journées du patrimoine qui auront lieu. Ah bah ça y est, j'ai les dates. Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Voilà, dans un instant, les infos sur RKS, puis la cuisine de Francis. Bonne journée, à bientôt.
Chaque week-end, sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.